s'amuse, se délasse, soit infantilisé, enfin, un grand lavage de cerveau permanent, mais que jamais le mot élite ne soit prononcé véritablement, hein, s'il y a une élite qui dirige, une oligarchie, en somme, qui dirige, et puis le peuple qui va, qui vient, dont les besoins sont remplacés par des désirs. Vous citez ce moment de la pensée où on passe de l'un à l'autre. Et là, je pense que c'est une clé. On peut remonter, bien évidemment, à des siècles auparavant, mais là, je pense que pour notre époque moderne, ça commence là.
Ah oui, non, on peut pas. Enfin, on pourrait remonter à des siècles auparavant, mais ce moment de la pensée est très particulier. C'est effectivement celui des années 20-30 où va commencer à s'élaborer une critique, j'allais dire, capitaliste de la démocratie. C'est-à-dire que le capitalisme s'était fondé idéologiquement à partir du 19e siècle, en parallèle avec l'idéologie libérale, le libéralisme politique, qui considérait que la poursuite par chacun de son intérêt personnel allait miraculeusement concourir au bien collectif par le mécanisme du marché. Et de la même manière, le libéralisme politique se fonde un petit peu sur l'idée que l'expression par chacun de sa volonté propre va se traduire, notamment par l'élection, par le bien collectif et le choix collectif. Et ce double libéralisme, ce libéralisme politique et ce libéralisme économique, se fonde sur l'idée que l'individu est rationnel. Or, ce qui apparaît avec Lippmann, avec Bernay, plus tard, un peu plus tard avec Joseph Schumpeter, c'est de considérer qu'en fait les citoyens ne sont pas rationnels et peuvent être manipulables par des procédés de propagande. Effectivement, Bernay met au point les premiers dispositifs de propagande et en quelque sorte la théorie de la propagande, c'est-à-dire très concrètement la manipulation de la psyché humaine, de ce que peut vouloir un individu.
Il était neveu de Freud.
Il était double neveu de Freud, c'est une histoire tout à fait intéressante et totalement informé du travail de son oncle, est totalement réceptif évidemment au travail de l'inconscient, mais il va le dériver dans un sens politique et vraiment de manipulation de l'esprit. Et l'idée, c'est que très clairement d'arriver à faire aux gens quelque chose qu'ils n'avaient pas l'intention initialement de faire, mais qu'ils vont faire tout en croyant que c'est eux qui le font. Et alors ça a deux intérêts. D'une part, en soi, parce que c'est un travail de manipulation qui va trouver sa pleine expression, alors qu'il va se développer avec la publicité, c'est-à-dire en fait les relations publiques, c'est ensuite devenu la publicité, et puis qui va trouver une formidable caisse de résonance avec la télévision, qui commence à se répandre aux États-Unis à partir des années 40, jusqu'à devenir l'instrument que l'on connaît aussi. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ce moment voit, en fait, le libéralisme se disjoindre, c'est-à-dire, ou plus exactement, sans le dire, et peut-être sans en être conscient, mais ça, c'est objet de débat, le capitalisme se dit, cette histoire de l'individu rationnel qui choisit librement quelle option politique il va choisir, c'est du bidon, et en fait, on va le manipuler. Et il va y avoir un développement et qui va être très bien exprimé par Schumpeter, qu'en fait, le peuple, c'est une masse amorphe qui est totalement influençable et tout le jeu politique va être en quelque sorte de les diriger, c'est quasiment les mots qu'il emploie, les diriger dans un sens ou dans l'autre en les manipulant, tout en leur faisant croire que c'est eux qui décident. Et là, il y a vraiment, de la part des pseudo-libéraux, des libéraux, un abandon fondamental de leur théorie, c'est-à-dire qu'ils abandonnent l'idée que l'individu est un être rationnel qui décide par lui-même.
C'est une masse exécrable d'unités glutineuses qui s'empiètent dans les parcours, se faufilent entre leurs semblables comme des vers visqueux, dans un mélange de sueur et de parfums bon marché. Présence d'un trop-plein de vie, mais qui transpire un arôme de mort, une ambiance de zombie, et ça s'étend et ça s'accorde. Ça se dissout dans son propre moule, c'est ce qui s'appelle la foule. Les fouliens font acte de présence, lourde présence, pourtant ils ne participent jamais vraiment. On participe seul, et j'accuse la foule de ne pas être un élément. Les fouliens sont bavards, mais leur bruit, leur vent, leur tempête ne dit jamais rien. Brouillard de mots qui dans ce désordre ne manifeste que du vide sous un air de trop-plein. Les fouliens se croisent, se frôlent, se touchent, mais ne se mêlent pas. Rapprochés, oui, si bien rapprochés, mais de par l'esprit étroit de chacun pour soi. Les fouliens. Les fouliens sont habiles pour la fluidité, la vitesse, la fuite et l'esquive. Toujours en mouvement, mais pour fuir sans cesse une civilité oppressive. Les fouliens ne combattent pas pour leur liberté. Non, c'est l'individu qui combat pour ça. Une foule, ce n'est déjà plus qu'une foule. Mais passons, de toute façon, le fouléen ne connaît pas la honte, non. La honte appartient à l'intimité, pas à l'escadron. Alors le fouléen, lui,